RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter.
Scouse. Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct, comme tous les soirs, bien sûr, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News à la télé, dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, comme d'habitude. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Jérôme Bretel est là. Jérôme, bonsoir.
Salut les amis.
Deux événements ce soir dans l'After, les gars. La présence de Luc Daillon, qui est déjà là parmi nous. Salut Luc. Ah, Luc Daillon, vous savez, vous pouvez... Je ne représente pas Luc.
Ça va parler aux ailes.
Le sauveur de club.
Luc est là, ça parle aux ailes.
Spécialiste de la gestion des clubs pro. Oui, il vient aussi
Luc
avec des...
Il peut parler d'autres choses que d'oseilles, mais à chaque fois que dans le football, bah justement, c'est pour l'oseille.
Ce soir, il vient avec des propositions. Là.
Est-ce qu'il peut parler d'autres choses que d'oseilles? Bah, j'ai fait le métier, j'ai fait des films,
quand même, hein.
J'ai soigné des gens, mais bon.
Ah non, j'allais pas dans ce sens-là.
Ils vont le ramener de club. De football.
Football, on peut parler.
Je peux même faire un tennis ballon avec n'importe qui.
Oh,
ouais. Ah ouais, ouais. De Banda Bora, Sony, tout ça. Mais bon, ça, on en parle jamais.
Ah, bah ouais, parce que on te prend pour ton,
voilà,
tes compétences premières, quoi.
Normal, là.
Tu vois.
Mais bon, il vaut mieux connaître ce dont on parle quand même a priori, non?
Exactement. Et comme tu t'es mis au chevet de plein de clubs ces derniers temps, et qu'en plus tu viens, je le répète, avec des propositions ce soir, parce que nous, on parle souvent de l'éventuelle future Coupe d'Europe. On va également en parler avec toi dans quelques minutes.
Oui, moi, mon avis m'intéresse sur la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, qui, à mon sens, est le sujet du moment.
Bien sûr.
C'est le sujet du moment. Ouais.
L'autre événement, les gars, ce sera tout à l'heure à 23h, une analyse étonnante de la posture des footeux. Vous allez être bluffés, vous verrez que grâce à l'analyse des postures, eh bien, on peut défendre mieux, s'organiser mieux dans une défense, s'entraîner mieux. Bref.
Marquer des buts.
Sorte de football du futur.
Tout à l'heure, exactement. Tout à l'heure, si les gens dans Dominique les Fournet sera avec nous.
À parler à des gens comme ça, ils vont bosser différemment, ouais, c'est certain.
Ah, c'est presque révolutionnaire. Daniel, vous avez fait des tests là pour l'émission.
C'est novateur en fait, c'est des choses, c'est des méthodes d'apprentissage, des méthodes de formation qui peuvent être nouvelles. Un coach qui a dans son staff un type comme ça va probablement construire sa défense autrement ou faire défendre son défenseur autrement sur un attaquant. Ouais,
c'est surtout le joueur qui doit se rendre compte de certaines faiblesses. Tu peux pas tout connaître.
Oui.
La preuve, moi, c'est qu'il m'a fait des tests. Franchement, j'ai fait. Mais c'est dommage. En 18 ans de carrière.
C'est fini maintenant pour toi.
Ouais.
Ça peut te servir pour le Média FC éventuellement, mais t'es tellement au-dessus que t'as pas besoin de test.
Non, mais ça aurait pu servir pour les défenseurs.
Ce sera tout à l'heure à 23h, les gars. En attendant, on va parler un peu de Ligue 2 parce que Metz a failli monter ce soir, mais Metz ne montera pas. Il y a une journée de Ligue 2, ce soir. On va parler également du reste de l'actu du jour. Une femme arbitre en Ligue 1, c'est pour dimanche. Benzema qui mange des algues, je vous raconterai tout. Plus tout le reste de l'actu du jour.
Pas déjà arbitre.
Elle était assistante.
Oui.
Là, on parle d'arbitre central.
Ah, central.
Eh oui.
Ah, d'accord.
Oui.
Centrale, c'est la première fois.
32-16, Madame Frappard.
Mais c'est pas la première fois, Centrale.
En Ligue 1, si.
Ouais. Quel but!
Gagnez maintenant vos places pour la finale de la Coupe de France de football, Rennes-PSG. Envoyez foot par SMS au 7-32-16.
Allez. Oui, ça tombe un peu tôt ce soir. Hein. C'est le fameux jingle. Le
mais on est obligé de se taper Jeannot là.
Oui, c'est Jeannot. Même quand il n'y a pas de match, il t'interrompt.
Je vais toutes les semaines, au moins deux soirées de suite. Laissez-moi tranquille.
Alors, le jingle est venu assez vite. Vous connaissez le principe. Toute la semaine, on vous fait gagner une place pour la finale de la Coupe samedi. Maintenant que le jingle est passé, vous envoyez RMC par SMS, vous envoyez foot pardon par SMS au 7-32-16 et vous pouvez gagner vos places toute la soirée. Foot par SMS au 7-32-16. Luc, on aborde le sujet principal avec toi dans quelques instants, mais d'abord l'actu du soir. Il y a quelques matchs qui se jouent ce soir, un match européen et pas que dans le monde du football. La Ligue 2, donc Metz devait gagner. Si 3 gagnaient ce soir, 3 gagnaient face au Red Star, ça vous a pas échappé, vous avez vécu ça avec Jean-Christophe tout à l'heure, 2-0. Et Metz n'a pas gagné face à Grenoble, donc Metz ne montera pas officiellement ce soir en Ligue 1, mais enfin bon. C'est une question de jour. Ouais. Ça devrait le faire, bien évidemment. Lens, en revanche, a à nouveau perdu.
C'est
l'autre choc du soir. Lorient a gagné à Lens 1-0. Et Lorient se relance dans la course au barrage. Hein. Ce soir, les Lorientais sont désormais quatrièmes. Donc, ils se replacent devant Lens et le Paris FC. Voilà. Alors qu'on les pensait largué.
Ils avaient perdu, surtout il y a quelques jours, contre Troyes à domicile. Donc c'était un match important aussi. Et là, ils se sont bien remis.
En revanche, Lens, alors Lens est à un point du cinquième, donc encore dans la zone. Mais ça commence à sentir pas très bon quand même hein, pour les Lensois. Je ne sais pas si vous les voyez monter, barragistes.
Bon, ben, ils peuvent être dans les barres. Je regarde, 50, ils ont 54 points. Le PSG, ouais. 55, Lorient, 57. Ça va jouer entre ces... Il y a deux places pour... Quoique le Havre revient bien aussi. Hein,
c'est le dernier club dont tu as été proche, Lens, Lucas.
Non, mon dernier, c'est Bastia. Avant Bastia, c'était
après Lens, non, t'as été...
président, c'est pas pareil. Hein. Enfin, moi, pour moi,
non, je parle pas forcément de président.
Dossier club, géré Bastia, mon dernier, mon avant-dernier, Valenciennes, et avant-avant-dernier, Lens. En 2012.
C'est si vieux que ça, Lens, déjà? Ouais,
2012, quand ils enlèvent Gervais, que le Crédit Agricole fait appel à mes services.
C'est vrai, c'était il y a 2-3 ans.
2012. Ouais, ça passe vite.
Ah oui, oui. Ouais. Bon, ok.
Voilà, 2012. Mais donc, je suis de près, évidemment. Club très attachant.
Ouais, bah sauf
qu'il
que
va
là...
Il va pas remonter.
Malheureusement. Et un actionnaire méritant, parce qu'il met au bout à chaque fois, il s'est fait un peu...
Il paraît qu'il veut vendre.
Non, il veut pas vendre. Moi, je l'ai eu au téléphone avant-hier, donc il veut pas vendre. Voilà.
Voilà, les infos sont là avec Luc.
Ah oui, du vrai.
Voilà, parfait. Il veut pas vendre. Voilà. Non, parce qu'il y avait des rumeurs à Lens.
Non, bien sûr. Ben non.
Après, faut qu'il y ait un acheteur hein, pour Lens. C'est...
Non, non, mais
bah, Lens, il y a un potentiel
vendre,
à Lens.
Il veut pas vendre. Il s'est attaché. Il veut finir. Non, je pense. Enfin, en tout cas, il me l'a dit clairement comme ça. Donc voilà.
Il y a un rapprochement avec le PSG hein, en ce moment avec Lens.
J'ai entendu.
Ils savent pas exactement ce qu'ils vont faire. Peut-être des prêts de jeunes joueurs. Bon.
Voilà. Après, il faut faire une équipe. C'est toujours la, enfin,
attends,
la même
Daniel
histoire.
Dit, il n'y a pas tant de potentiel que ça.
Ça dépend de quoi on parle. Le centre de formation, il s'est quand même vidé. Il y avait quelqu'un de grande qualité qui était avant, et maintenant il y a eu tellement de ruptures en réalité de management, et donc très difficile de mettre en place
laissé à l'abandon. Quoi. Après, Lens, il y a Tabolart avec une tribune qui est pleine parce qu'il y a des supporters fidèles depuis longtemps, mais ça reste. Malgré tout, une petite ville. Dans le foot d'aujourd'hui, c'est compliqué dans un bassin de population comme ça, sachant qu'à côté, en plus, pendant des années, t'avais pas un concurrent dans une grande ville. Là, tu l'as, c'est Lille.
Moi, je suis bien placé pour le savoir. Moi, j'ai fait émerger Lille, qui était en bas des deux.
Exactement.
Avec Lens à côté. Et je connais Valenciennes aussi. En réalité, Lens, c'est une singularité.
Exactement.
C'est que quand j'étais président, Gervais était parti. Enfin, vraiment, c'est une période très très difficile. Il y avait effectivement 20 000. Il y avait des gens qui venaient de Lille. Il y avait encore des sponsors. C'est un peu comme Saint-Étienne. Moi, j'ai fait en 2004 le sauvetage de Saint-Étienne, qui était en D2 aussi, pareil à l'époque.
Vous étonnez pas. Luc a sauvé tous les clubs.
Non, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu peux sur des clubs comme ça qui sont atypiques, avec des vraies recettes, avec des vrais publics, avec des supporters dans toute la France, faire des clubs professionnels qui tiennent la route durablement. C'est incontestable. Mais c'est une singularité, ça, je suis tout à fait d'accord. Et on a pas mal de singularités dans le foot français, on en parlera tout à l'heure.
Puisqu'on est là-dessus, quand on fait appel à tes services, ouais. Toi tu arrives dans le club, tu fais un audit général de la situation.
Ça dépend. Il y a des fois où j'ai même pas le temps. Par exemple, Bastia, le club avait quasiment déposé le bilan. C'est comment tu fais redémarrer ce qu'on appelle le club. C'est-à-dire, à partir de l'existant. Alors parfois je suis prévenu un peu en amont, soit par la banque d'affaires, soit par un actionnaire qui veut vendre, donc il veut trouver une transmission, mais voilà, donc t'arrives, des fois t'as le temps de faire un audit, des fois t'as pas le temps, mais en gros la situation c'est toujours la même, c'est-à-dire c'est des clubs qui perdent de l'argent en exploitation, qui équilibrent leurs comptes comme la plupart des clubs avec des ventes de joueurs, et quand les ventes de joueurs se font pas ou que les résultats sportifs sont pas là, ben on a des effets où les actionnaires en ont marre et ils essayent de revendre. Et voilà, donc c'est là où j'interviens, dans des situations de crise, ce qui est un peu triste.
Bon, c'est bien parce que comme ça, tu pourras nous dire tout à l'heure quels sont les clubs qui aujourd'hui ont une vraie valeur, ceux qui demain pourraient être achetés, devenir...
Où on parle, c'était la question tout à l'heure de Gilbert, à chaque fois on entend club à potentiel de développement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben oui.
Qu'est-ce que tu veux développer? Dans quelle mesure
tu
inscris ton club?
Ben ouais.
Pour faire quoi? Peut-être que Lens, effectivement, a un potentiel, mais pour être un club deuxième, enfin Ligue 1, quoi, et encore dans notre singularité de la Ligue 1...
Voilà.
Tu peux même espérer plus, parce que n'importe quel petit club peut espérer dans notre Ligue 1, mais
c'est pour
tu
aller
peux
où
pas avoir de dimension européenne.
C'est un peu pour ça que ça fait longtemps qu'on me dit, bon, à un moment donné, il faut peut-être faire des réformes, des formules de compétition, savoir de quoi on parle quand on parle de club, même de détention d'un club. Sur le papier que j'ai fait, je parle de société coopérative d'intérêt collectif, où tu mets au capital l'ensemble des familles. On est passé des associations, sociétés d'économie mixte, sociétés anonymes, au moment où on rentrait dans l'économie du spectacle. Et puis, ça s'est un peu emballé. Et effectivement, c'est difficile de trouver des repreneurs parfois. Alors on parle de valeur.
En France, oui, tous les repreneurs, ils viennent des États-Unis ou du golf.
Oui, mais quand
plus
on
personne
regarde,
veut investir dans le foot.
Déjà reprendre certains clubs quand on te les donne pour un euro, tu te dis comment je vais faire pour assumer la trésorerie. Après, il y a toujours la spécificité du foot qui sont ces actifs joueurs, ces ventes de joueurs qui sont un aléa et en même temps qui affaiblissent le club puisque quand on vend un joueur, c'est qu'il est bon et donc on affaiblit l'équipe. Donc voilà. C'est toute cette complexité à laquelle on est confronté. Et moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que pour stabiliser, pour qu'on ait des clubs puissants, il faut qu'on ait des formules de compétition qui protègent les clubs contre les aléas sportifs qui sont co-substantiels de cette activité.
On va y arriver dans quelques instants.
C'est quelque chose qui est pas, alors, qu'on n'entend pas. Hein.
Dans l'actu du jour, il y a également des matchs européens, je l'ai dit ce soir. Le Barça joue ce soir à Alavés. Il y a toujours 0-0 après 42 minutes dans ce match. Et puis sachez qu'en Angleterre, le but le plus rapide de la Première Ligue a été marqué ce soir à Watford. Ouais. Un but de Southampton.
7 secondes.
Ouais, le mec s'appelle Long et il a marqué au bout de 7 secondes. Donc c'est bizarre, mais bon.
Notre record, c'est toujours Michel Rio.
Michel Rio, c'était combien?
Michel Rio à Nantes.
Michel Rio
non,
à Caen.
C'était à Caen.
Tu confonds avec Patrice Rio à Nantes.
Patrice Rio, oui.
Non, c'était Caen. Putain, merde, c'est quoi, 8 ou 18?
On va vérifier.
Non, je crois que c'est 8.
8. Pas 18.
En tout cas, là, c'est 7 secondes, le but de Southampton à Watford ce soir.
Patrice Rio marquait un but dans les premières secondes, je voyais pas comment il pouvait faire.
Il a pas le temps de monter, quoi.
même Michel Rio, hein.
C'est vrai qu'en plus le but il est spécial, ouais. Mais donc là 7 secondes c'est mieux. Ouais, notre record ça doit être 8.
Et puis il y a une demi-finale de Coupe d'Allemagne également ce soir après 70 minutes. Leipzig mène 2-1 à Hambourg qui est désormais en D2 allemande. Donc voilà, je vous tiendrai informé des scores définitifs tout à l'heure. Donc dans l'actu du jour, donc Stéphanie Frappard, première femme désignée arbitre centrale d'un match de Ligue 1. Ce sera donc elle a 35 ans, elle arbitre régulièrement en Ligue 2 hein. Donc des matchs en tant que arbitre du centre depuis 2014, donc en Ligue 2, elle fait partie du paysage de la Ligue 2.
C'est pour ça.
Ah, tu l'avais vu en Ligue 2,
ouais,
sans doute.
En Ligue 2, c'est pour ça.
Et là, ce sera le match Amiens-Strasbourg qu'elle va donc arbitrer dimanche. Voilà, c'est une première, donc tout le monde se félicite de l'arrivée d'une femme. Est-ce que ça va changer le comportement des joueurs? On verra dimanche.
Pourquoi tu te félicites?
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Bah, je sais pas, je dis tout le monde se félicite. La Pourquoi Ligue, Pascal Garibian, parce que c'est une première. Et que les mixités dans l'arbitrage.
C'est très bien, mais en fait.
Ça fait un bout de temps, la mixité. Et puis,
en fait, c'est à partir du moment où elle est compétente et qu'elle mérite d'être là, elle y est. Et il y a pas, enfin, on peut la féliciter parce que c'est sa première, mais pas parce que c'est une femme.
Bah, on est d'accord.
Ouais. Tu la félicites parce qu'elle est compétente et qu'elle mérite d'être là.
Non, puis franchement, je l'ai vu en Ligue 2 là dernièrement. C'est pour ça que je croyais que c'était un match de Ligue 1. J'ai confondu et j'avais trouvé qu'elle était les joueurs peut-être ont un peu.
Il est possible qu'elle se fasse un peu moins insultée qu'un arbitre.
Mais certainement, certainement. Et après,
Rod Verratti peut venir à 2 cm en faisant comme ça.
Mais
Stéphanie Frappard.
Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, dans le sens où si elle réagit comme certains arbitres, ça énerve les joueurs. Et elle a un autre.
Oui, tu veux dire, tu regrettes l'arrogance de certains arbitres.
Ouais, ouais.
Parce que t'es une femme, que t'as moins d'arrogance.
Elle paraît plus cool. Après, il faut qu'elle se fasse respecter, mais avec des mots peut-être différents de certains, et c'est pour ça que les joueurs ont un peu plus de retenue, donc à mon avis ça va bien marcher.
Bon, enfin elle va être observée évidemment de près dimanche. Vous vous souvenez de René Ruelo
quand même.
René Ruelo, ouais. Un des amis de l'after, vous avez envoyé bouler 3-4 fois parce qu'il parlait pas trop René Ruelo.
Oui, à l'insulte facile.
Ouais. Bah là, il a été condamné pour insulte.
Ah bah voilà.
6000 euros d'amende parce qu'il avait dit envers monsieur Le Texier, arbitre, il avait traité d'escroc, il avait dit que c'était un imbécile. Voilà.
C'est un imbécile, ouais.
Donc il s'est pris 6000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Caen.
Le Texier ?
Bah normalement oui,
alors bien,
le club
va se faire des vacances, le Texier va être bien.
Le club avait déjà pris 20 000 euros d'amende, mais là c'est le club qui a payé. Hein. Bon voilà, c'est pas René Ruelo directement, mais voilà, c'est une affaire qui date d'il y a 2 ans. Donc voilà, pendant ce temps-là, Ruelo a disparu puisqu'il est plus à Rennes, hein, il est plus du tout au club. Et puis Thierry Henry, il y a une folle rumeur aujourd'hui comme quoi Thierry Henry avait signé comme entraîneur au New York Red Bulls, et en fait c'est faux. Le club dit n'importe quoi, on sait pas d'où ça vient.
Depuis quelques jours, il y a cette t'es dans l'air. Donc c'est totalement faux.
C'est le club dément. Après, tu sais, démenti d'un jour ne veut pas forcément dire vérité du lendemain.
Oh, quel beau proverbe.
Non, je sais pas. On en a vu dans le foot des trucs. Ouais.
J'ai peur à l'entraîneur.
Je maintiens ma confiance au coach. Et hop, le lendemain, le mec, il est viré.
J'ai peur à l'entraîneur. Prochain mauvais résultat, peut-être que Thierry Henry va arriver.
Déboulé avec Jérôme de Bontain.
Ouais.
Ah, Jérôme de Bontain, dis donc. Qu'est-ce qu'il devient, Jérôme de Bontain?
Il est aux États-Unis.
Toujours ami avec le prince Albert.
Ah ouais.
Bon, bah, il va peut-être, il a failli revenir à Monaco, en plus, Jérôme de Bontain, si je dis pas de bêtises.
Bah, il y était, moi, quand j'y étais, il y était.
Il a failli venir à Saint-Etienne, paraît-il, avec un fond.
Ah bon?
Pic 6.
Bah, oui, oui, oui,
il était là-dedans.
Absolument.
Autre info du jour, vous vous souvenez de Makhachkala, le fameux club russe qui avait donné le meilleur salaire de l'histoire à Sergio Leto?
Ça va couler, ça.
Bah là, ils sont au bord de la faillite, les mecs. Ouais, parce qu'en gros, l'oligarque qui finançait les clubs a quelques ennuis judiciaires, notamment en France, une affaire de fraude fiscale. Du coup, il paye plus, et du coup, le club est menacé de disparaître aujourd'hui. Et donc, voilà, pour ce club d'Andy Makhachkala, je vois que ça provoque pas trop d'émotions chez vous, vous en foutez.
Bon, à peu près, ouais. Bon, on a eu Mamadou Falance, hein.
Et puis, autre info du jour, importante, elle concerne Meunier. Meunier qui, comment dirais-je, commence à se dire, bon, je comprends bien qu'on veut plus de moi. Voilà ce que dit Meunier.
Ouais, j'aurais le même sentiment à sa place. Quand il est arrivé, il est parti très fort, très vite, et il a plu. Et derrière, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas confirmé, qui sort d'une mauvaise saison.
Cette année, il a été pas mal blessé.
Non, puis attends, il faut appeler un chat. Ce que je veux dire, t'as l'entraîneur qui arrive, qui a ses têtes.
L'entraîneur,
et il rentrait pas dans les plans.
Exactement ce que j'allais dire.
Après, ça arrive. Moi, sa déclaration aujourd'hui,
elle est pas. Après, lui préférer Kerrer.
Bah, vu Kerrer en ce moment.
De douter de ce choix. Mais bon.
Ah ben non, mais ça, on est d'accord. On est d'accord que pour n'importe
si Meunier,
quel.
Meunier a encore un an de contrat, donc il est pas évident qu'il parte dès cet été. Mais enfin, s'il y a une offre, évidemment, ils vont pas le retenir, surtout s'il y a pas de prolongation.
Mais lui, il a aucun intérêt à rester.
Absolument. Donc s'il part, déjà que le PSG rame pour avoir un arrière gauche depuis des années.
Un arrière droit.
Un arrière gauche. Déjà que l'arrière droit, il l'avait à moitié trouvé avec Meunier. S'ils en prennent pas un autre, pensant que ça va être un coup Kerrer, un coup Dani Alves qui a 45 ans, ça va être compliqué quand même.
Il y a le jeune Dagba maintenant.
Et donc Meunier dit mon cas personnel a été mis au frigo, dit-il. Le message m'a l'air assez clair.
Ah bah c'est sûr que de toute façon quand.
Mais lui-même a pas été complètement nickel. Je trouve qu'il s'est un peu gâché, Meunier. Je trouve que c'est un peu gâché. Ouais, il y avait quelque chose, il y avait un potentiel,
même
sur la Coupe du Monde, dans l'idée que Tuchel avait de jouer à trois derrière, il avait vraiment quelque chose à faire dans
peine
un genre de côté, mais
c'est peine perdue. Ce que je veux dire,
Tuchel n'a pas l'air de le.
Je pense qu'il a essayé, il est arrivé avec plein de bonnes intentions, et en effet, je suis d'accord que le système que Tuchel voulait mettre en place,
ça lui convenait
parfaitement. Sauf qu'au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il lui préfère Kerrer, il lui préfère le jeune Dagba. Au quotidien, on n'a pas tout vu. Mais je pense que lui s'est accroché. Au bout d'un moment, au bout de 6 mois, en plus, tu enchaînes les blessures, malheureusement pour lui. Et peut-être que lui aussi, psychologiquement, il a
sur la première phase,
il a lâché
sur la première phase, sur la la phase de poule de la Ligue des Champions. Franchement, Meunier a plutôt été pas mal. Hein. Qu'on se rappelle des matchs, c'était plutôt intéressant. Donc, je pense que le potentiel est toujours là et qu'il y avait matière à ce qu'il s'installe comme le vrai arrière droit dans le 3-5-2 du PSG. Visiblement, ça plaît pas à Tuchel. Bon, tant pis.
Luc Daillon avec nous dans quelques instants. On va évoquer tous les sujets du moment. Tiens, alors, si vous êtes, je le sais que dans l'after, ce sujet-là vous passionne. Si vous avez des questions précises à poser à Luc Daillon, c'est maintenant. Tiens, sur le trading, par exemple. Est-ce que c'est le modèle du futur? L'état de votre club? Allez-y, n'hésitez pas, 32-16. Et puis donc, les propositions de Luc sur les formats de compétition. On va y arriver dans quelques instants, avec la nouvelle Coupe d'Europe à suivre. Et j'ai, Jérôme, là, sur Direct Studio, qui me dit, en fait, Luc Daillon, c'est cauchemar en Ligue 1. C'est comme cauchemar en cuisine. Quand c'est le bordel, on appelle Luc Daillon.
Passé
cauchemar en Ligue 1,
Philippe Etchebest qui arrive dans le resto tout dégueulasse, qui dit
oui,
avec la cuisine, avec les rats dedans, et toi t'arrives et tu nettoies.
C'est que, à mon avis, c'était là avant, je nettoie et après c'est propre, il s'ajoute, regarde Lille et tout ça, ça marche bien, Saint-Etienne.
Ah, Lille, tu veux.
Parti de zéro à Lille, hein.
Ouais, non.
Il y a eu quelques soubresauts depuis.
Moi je te parle du Lille de maintenant, le modèle économique maintenant avec l'actionnaire de maintenant.
On va en parler, ça joue.
Voilà, mais je préférais que tu me parles de ça, que tu me donnes ton avis là-dessus.
La privatisation de Lille qui était la première en France, fait, elle date de 20 ans. Voilà.
Puisque tu étais là, et ensuite c'est Francis Gray qui prend ta suite.
Ensuite pour la présidence, moi je suis resté actionnaire 5 ans quand même.
Et c'est là que Lille va en Ligue des Champions et que Vaïd
va en Ligue des Champions. Exactement. Absolument, et après j'ai viré Vaïd et Francis, et on fait venir Claude Puel, construit centre de formation, on fait venir Michel Seydoux. Ça c'est des... Voilà.
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 Baïd, c'est loin du Lille d'aujourd'hui.
Ah, Baïd, je crois que je suis le seul à avoir eu le courage de dire en face qu'il n'avait pas envie.
Non, Magra, il a viré au PSG. Ensuite.
Mais moi, à Lille, il est triomphateur, mais je sais qu'il met le club dans le mur. Voilà, donc.
Bizarre. Moi, je suis étonné.
Et là, bon, va être pas content.
Le grand entraîneur par ailleurs.
Il a vomi.
Dans quelques instants, donc toutes ces questions avec Luc, l'after est là jusqu'à minuit. On se retrouve dans quelques secondes au 32-16 bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rantaine, ils sont là. On reçoit Luc Dayan ce soir. Ça fait un moment que Luc n'était pas vu dans l'after.
Non, j'allais m'inviter. Moi,
quelques années.
J'aurais parlé de Bastia, de plein de trucs.
Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, on va rattraper
du
tout ça.
Du film sur Jesse Owens.
Ah, mais voilà, mais c'est c'est là qu'on s'était vu.
Eh oui, c'est pour ça. C'est là.
Alors, si vous l'avez vu, le film sur Jesse Owens,
quelque chose quand même.
Superbement réussi.
Avec l'argent que j'ai gagné, Luc Dayan. Je l'ai mis là-dedans, tu vois. Je fais comme Robin des Bois.
Très bien, bravo.
Bon, par contre, on commence, parce qu'il y a tellement de sujets.
Alors, si je peux me permettre, j'ai prévu un ordre du jour.
Allez, vas-y.
On parle beaucoup, Luc, du nouveau modèle de trading. Ce que fait Lille, Monaco, Bordeaux prend ce chemin-là. Est-ce que pour toi, qui est au contact de tous ces clubs et qui voit bien un peu le marché, est-ce que ce modèle-là va tendre à à devenir le modèle courant finalement dans nos clubs français, on parle que de la France hein.
Bien sûr.
Ou est-ce que bon, ça restera les épiphénomènes dans certains clubs?
Alors, c'est devenu un modèle courant, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'amplifier quelque chose qui est parti un peu à la marge et qui est effectivement cette notion de vente de joueurs. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler comme un métier et comme une des sources récurrentes de revenus, c'est l'introduction en bourse de l'OL. Jean-Michel Aulas fait sa présentation, il dit voilà les ressources des clubs, droits télé, recettes spectateurs, hein, et trading de joueurs. Préalablement, il avait été retoqué, hein, il a donc modélisé ça. Et effectivement, ce qu'on appelle un transfert, c'est une rupture de contrat à durée déterminée, donc il y a un préjudice versé au club, ça part de là. Sur 15-20 ans, moi, c'est ce que j'expliquais dans le papier que j'ai fait, c'est que quand je faisais des sauvetages de clubs il y a 15 ans, pour refinancer un club, il fallait chercher 2, 3, 4, 5 millions d'euros. Même Lens, je me souviens, avait donné un peu d'argent à Nice en 2001. Alors, on avait trouvé un peu d'actionnaires et ils avaient acheté 3 joueurs pour 6 millions de francs à l'époque. Donc, c'était une variable d'ajustement, c'était pas un business. Bon, au fur et à mesure, effectivement, d'abord, le football s'est internationalisé. Le joueur, avec Larry Bosman, est devenu central. Donc, le transfert de joueurs est devenu de plus en plus important en montant. Avec, en plus, une possibilité de payer en plusieurs étapes. T'es pas obligé de payer cash. Donc, c'est devenu à la fois une réalité, à la fois une variable d'ajustement. Et puis, maintenant, c'est devenu un produit de gestion récurrent.
Première valeur économique du club.
Maintenant. C'est-à-dire quand on voit les comptes publiés par la Ligue sur la totalité des clubs français, ils sont tous en perte d'exploitation hors vente de joueurs. D'accord? Ça veut dire que quand ils démarrent la saison, ils savent pas qu'ils les ont vendus.
C'est-à-dire que le business du club ne marche pas. Le seul moyen de faire rentrer de l'argent, c'est la vente du joueur.
Alors, pondérons. Bien sûr que le business marche. Il y a des droits télé, il y a des recettes spectateurs. Enfin, je parle recettes, business, faut voir de quoi on parle, mais la plupart des objectifs des dirigeants des clubs de taille moyenne, c'est en général d'équilibrer leurs comptes en fin de saison pour pas être amené à remettre de l'argent et à boucher les trous indéfiniment. Quand tu te rends compte que c'est inflationniste en plus, c'est-à-dire que pour qu'un joueur accepte d'être transféré, on va demander à Jérôme, il faut que son salaire augmente, il va pas changer un contrat.
Rarement.
Là où il est bien, où il a sa maison et ses enfants sont à l'école, si en même temps son contrat n'augmente pas. Donc c'est par nature inflationniste. Donc on s'est retrouvé avec cet effet que je décris. Je me dis mais quand même là mes derniers dossiers, Bastia, Valenciennes, c'est pas des très gros clubs quand même. Enfin les besoins de financement du jour au lendemain c'est 25 à 30 millions d'euros. Il y a 15 ans c'était 2-3 millions d'euros. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement les charges vont augmenter, les salaires augmentent, les dirigeants qui ont pas ce qu'on appelle les fonds propres. Ils payent pas trop les fournisseurs, ils attendent le moment où ils vont vendre les joueurs pour rentrer ça dans leur compte, remettre un peu de trésor et ainsi de suite. C'est une forme de cavalerie qui repose sur une réalité, parce que les ventes, elles sont pas factices, sauf si c'est des clubs qui...
Bon, enfin, c'est là, si tu décris de la gestion la petite semaine, parce que finalement, tu pars sur une saison sans savoir ce que ça va donner en termes de ventes, donc quel va être ton bilan.
Quand tu as des fonds propres importants, comme Lyon, c'est-à-dire que tu sais que tu peux gérer un aléa, une saison où tu fais pas tes ventes de joueurs. Quand tu regardes les comptes de Lyon, chaque année, c'est entre 60 et 120 millions de joueurs qui sont vendus. Et il sort des résultats positifs, il fait des distributions de dividendes et ainsi de suite. Mais si tu les fais pas, il faut que tu payes quand même tes charges. Quand t'as pas des fonds propres importants, effectivement, c'est une gestion à la petite semaine. Et c'est le cas des clubs de taille moyenne, du championnat. Et on peut pas le reprocher. Si ce n'est que, quand le club descend en fin de saison, je te parle de ces cas-là, c'est parce que le club est descendu en fin de saison. Si le club reste en Ligue 1, les autres recettes restent convenables, il y a des ventes de joueurs, et à ce moment-là, comme c'est le cas quand tu regardes Angers, tous ces clubs-là, mais ils font des ventes de joueurs, ils mettent des 10, 12, 14, 15 millions. Alors pour les gros clubs, question que tu m'as posée, Bordeaux, enfin les clubs intermédiaires qui pensent avoir un potentiel européen, de par leur marque, leur bassin de population, leur stade, leur histoire. Là, l'équation, c'est de dire, bon, comment on analyse le championnat? Il y a le PSG tout en haut, Monaco, on ne sait pas trop.
En gros,
qu'est-ce qu'on peut faire au mieux et à quoi ça amène? Et sachant qu'en même temps, les ventes de joueurs atteignent des sommets, des montants qu'on n'aurait jamais imaginé. On n'aurait jamais imaginé qu'un joueur soit transféré pour 200 millions d'euros. Je fais ancien combattant, c'est 1,3 milliard de nouveaux.
Revenons à Bordeaux d'aujourd'hui, oui, Monaco, tout ça.
C'est des prises de risque d'investisseurs qui ont l'habitude de risquer.
Mais qui sont là pour faire du fric.
Y a pas de raison.
Ils sont pas là pour gagner des titres.
Attends, Gilbert, c'est des sociétés anonymes. On a tous accepté il y a 15-20 ans que les clubs, et moi je parle des nouvelles formes de gouvernance, soient gérés par des sociétés privées qui prennent les risques et qui ont en même temps les avantages. Moi, on m'avait insulté à Lille parce qu'on avait réussi. J'étais actionnaire. Tout le monde sait que je suis pas milliardaire. Mais on pensait que j'étais devenu milliardaire. Je m'étais enrichi aux dépens du club. Sauf que quand on arrive avec Francis Gray au club, on met de l'argent, on restructure, on travaille et on est des actionnaires. Donc, on veut des investisseurs, mais on veut pas de retour sur investissement. Donc, tout est dans l'hypocrisie globalement. Et je préconise.
Qu'en gros, on n'accepte pas l'idée que le mec qui mette le blé
s'enrichisse.
Exactement.
S'enrichisse.
En fait, les gens veulent des mécènes, quoi.
Oui. Voilà. Alors, dans ces cas, mais moi, ça me dérange pas. Dans ces cas-là, on le dit. Et on prend pas des sociétés anonymes sportives professionnelles, puisque là.
Oui, et puis bon courage pour trouver 20 mécènes.
C'est quoi le mécène dans le foot aujourd'hui? Il y en a plus, quoi. Et
le Qatar, c'est quoi au PSG?
Oui, le Qatar, c'est du mécénat, au fond.
J'allais dire, il y en a plus, à part le
Pino
Qatar.
Arène, mais François Pino Arène, il a bouché les trous à chaque fois. M6 à Bordeau, c'était ça.
Oui, mais au départ,
ils viennent pas. Même si M6 a bien vendu, au final.
Alors, au départ, ils viennent pas pour être des mécènes.
Pourquoi ils viennent?
Ils se disent qu'il va y avoir du business et que ça va marcher.
Non, la plupart des gens qui ont été actionnaires de clubs de foot sont venus pour des intérêts indirects.
Bah, comme le Qatar, placé, terrain
le
direct.
Canal au PSG, allons pas, comme le Qatar.
Canal plus indirect.
Des intérêts indirects.
Exactement.
Loulou.
Mais des gros
Nicolas
indirects.
Nicolas, à pareil. Son âme.
Loulou, pareil. Indirect. Un terrain direct.
Donc c'est des intérêts indirects.
Ça veut dire. Marché des poubelles de la région.
Ça veut dire, le club de foot, je fais au mieux, je m'amuse, j'essaye d'équilibrer ainsi de suite, mais quelque part, je m'y retrouve. Par ailleurs, en consolidé. Donc ça c'est
comme
le
Dreyfus,
modèle.
Robert Louis Dreyfus, il y avait tout
la pyramide avec Adidas, c'est les droits.
Bon, faire, ouais.
Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dehors, mais voilà. Donc ça, si tu veux, c'est un
peu normal après ça, tout. Le mec va pas venir juste.
C'est une question de.
Sauf fond. Si moi je gagne 500 millions au loto et mon club de foot, je veux que ce soit ma danseuse, quoi.
Alors c'est ce que je te dis, c'est qu'en réalité, dans le même championnat. Même championnat sur le territoire français et puis européen, tu as des détenteurs de clubs qui ont des motivations totalement différentes. C'est pas bien et c'est pas mal. Je fais juste un constat. Il y en a qui sont là pour gagner de l'argent, d'accord. Comme moi, je l'ai été. J'étais actionnaire. Je suis pas resté longtemps. J'ai fait Lille et l'Entente et j'ai perdu de l'argent à l'Entente. J'ai mis mon propre argent et je l'ai perdu. Bon, donc et c'est une société privée. En même temps. Je considère que
c'est l'Entente Saint-Loi Saint-Gratien, voilà. Hein, qui à l'époque jouait en national, si j'ai de bonne mémoire,
qui était victime de la Ligue, la Fédé. Bon,
on va pas refaire
l'histoire. Ce que je veux te dire, c'est que je me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Je pense qu'à partir du moment où la loi fait qu'on est en société anonyme, moi je suis allé au bout. J'aime les clubs, je veux travailler dedans. C'est pas anormal quand on investit de l'argent. Et j'ai sur le dossier de l'Entente, j'ai attaqué la Ligue parce qu'ils ont laissé jouer des clubs dans le même championnat qui ne payaient pas des joueurs. Qui ne payait pas les salaires, qui payait pas les charges sociales. Parce que pendant que tu vends pas tes joueurs, t'as pas la trésorerie pour. Donc moi je dis au contraire, je dis que les actionnaires doivent être là pour le foot. Et quand t'es là pour le foot, tu te poses la question de ce que c'est qu'un club, comment ça marche, voilà. Tu essaies de faire au mieux. Et puis après, tu peux décider de distribuer des dividendes ou pas. Moi, je considère qu'il ne faut pas distribuer de dividendes. Donc,
qu'est-ce qui donne l'impression, Luc, que les clubs français sont tout le temps mal gérés, la plupart.
Non, ils sont pas si mal gérés. Le problème, c'est que, à cause de ce que je viens de te dire, mécaniquement, prends un club qui doit vendre pour 10 millions à la fin de l'année. D'accord? C'est-à-dire son budget prévisionnel qui passe en DNCG, il met 10 millions de ventes de joueurs. Mettons 12 millions, ça va être encore plus facile. Ouais. 12 mois. C'est-à-dire chaque mois, tant que c'est pas vendu, il faut mettre 1 million d'euros de trésorerie pour payer toutes les charges qui sont en face. C'est-à-dire que le type, il fait un virement d'un million d'euros de son compte pour équilibrer tous les comptes. Ça veut dire que, voilà. Donc qu'est-ce que tu fais en général? Quand tu l'as mis une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, tu payes pas nécessairement en temps et en heure, tu payes pas les charges sociales, tu retardes les fournisseurs, t'attends de faire tes ventes de joueurs. Ça crée une tension. Ça crée aussi une tension au niveau du sportif. Quand le staff sportif, on lui met la pression en disant bon, bah il faut se maintenir en Ligue 1, mais en même temps, faut vendre des joueurs.
Ou il faut choper la Coupe d'Europe, sinon on est mal, comme à l'OM.
La pression du résultat sportif sur l'économique est trop forte. C'est ce que je pense. Vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire que pour atteindre
des... Comment veux-tu que ce soit autrement?
Alors, encore, ce que je préconise, c'est
une réforme. Oui, mais toi, tu veux des nouveaux formats de compétition.
Moi, j'ai dit faire des ligues
fermées. En Europe, c'est aujourd'hui, tu as autrement que des équipes qui descendent.
Alors, procédons étape par étape, Daniel.
Mais tu as les mêmes problèmes partout. L'Espagne, il y a un endettement colossal refinancé par l'État qui fait un moratoire sur tous les clubs. Il y a eu 15 clubs qui, pendant 4 ans, n'ont pas pu acheter un seul joueur. Partout, l'Italie, c'est un désastre. Moi, mon ancien associé à l'entente, il est au bilan AC, c'est un désastre. Donc, il faut pas prendre ça comme un élément de comparaison.
Il faut avoir une façon vertueuse de gérer un club de foot.
Alors oui.
Attendez, les gars, parce que
j'aimerais pas dit que c'est malhonnête. J'ai dit que c'est dangereux.
J'aimerais qu'on accueille Jean Aurel, qui est là. Il faut qu'on fasse étape par étape. On a le temps. Hein. On est là ensemble encore pendant quasiment une demi-heure. Jean Aurel, bonsoir.
Et bonsoir à tous. C'est un plaisir. Je vous écoute souvent, mais là, je vous ai envoyé, donc c'est grandiose. Voilà.
Eh ben, tu es le bienvenu. T'es chez toi. Et t'es supporter de Bordeaux.
Exactement. Donc, je vais poser une question assez concise à monsieur Dayan. Bonsoir, monsieur Dayan, déjà.
Bonsoir.
Docteur. j'aurais voulu savoir, premier point, quel est votre avis personnel, sur l'actualité, hein, des Girondins de Bordeaux de ces repreneurs. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, savoir si vous aviez été contacté aussi, peut-être, par ce nouvel organigramme pour intégrer la présidence des Girondins.
Ok. Alors, sur la deuxième question, non. Mais c'est un dossier que je connais, mais j'ai pas été contacté du tout. Sur le premier point, ce que j'en pense, c'est que c'est une société donc qui a fait appel à de l'endettement, comme c'était le cas à Lille, pour avoir les capitaux à la fois pour reprendre le club, c'est-à-dire pouvoir reprendre les engagements d'M6 et développer un projet sportif qui a été affiché et qui est donc volontariste, qui considère que la ville de Bordeaux est un bassin de population qui permet de supporter une économie d'un club de foot de taille européenne, qui considère qu'effectivement, avec une bonne formation, chaque année, entre la formation, l'exposition des jeunes sur l'équipe première et la revente, il y a un savoir-faire, ce fameux savoir-faire de trading de Lille ou autre, voilà. Et puis
c'est ce qu'ils évaluent.
Parce c'est ce qu'ils évaluent.
La prise de risque est prévisionnelle. Si tu devais évaluer la prise de risque entre 0 et 10, tu dirais combien pour les investisseurs là?
C'est-à-dire l'espoir de retrouver l'argent.
De rentrer dans son argent, voire d'en gagner.
Pour les fonds, parce que c'est pas pareil, il y a ceux qui prêtent et il y a ceux qui gèrent. Ceux qui font appel à des capitaux et qui gèrent, en général, sont moins en risque que ceux qui prêtent. Ceux qui prêtent, ils attendent un retour, enfin, ils attendent des intérêts et effectivement une sortie. C'est qu'à un moment donné, ils puissent récupérer. Donc, moi, je pense qu'ils prennent un risque et effectivement, je pense que, mais ils ont l'habitude. C'est comme les fonds qui rentrent dans les startups, c'est-à-dire que sur 10 investissements, ils acceptent d'en perdre 8.
Parce qu'ils savent que les deux gagnants vont faire la bascule.
C'est ça. C'est un peu le mode de raisonnement.
Ouais, mais je pense que les supporters de Bordeaux, à la limite, savoir si l'investisseur prend un risque, c'est une chose. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est
est-ce que le club
peut sportivement, vu du modèle proposé, est-ce que sportivement il y a une réelle ambition derrière? Et ça, moi, je suis pas du tout sûr.
On n'en sait rien. Si tu veux, le problème, c'est qu'après, on en revient au terrain.
Si ça marche, c'est parce que ça marchera sur une saison. Mais au bout de la saison où ça aura marché, les trois mecs qui auront de la valeur, ils les vendront pour que les mecs se mettent l'oseille en poche. C'est logique.
Même pas pour faire de l'oseille en poche, pour rembourser ce qu'ils ont prévu de rembourser.
Dans un premier temps. Déjà, et s'il y a à gratter quelque chose, ils gratteront.
Bah oui.
C'est normal. C'est des investisseurs.
Voilà. Jean-Aurel, merci.
C'est ça que les supporters doivent comprendre.
Luc, une question directe. Aujourd'hui, si un investisseur te contacte, voilà, je sais pas, un fonds de pension quelconque,
ça m'arrive.
Tu lui dirais, tiens, s'il y a un club en France sur lequel je te conseille d'aller, ce serait celui-là. Et moi, je te dis Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne est à vendre aujourd'hui.
Non. Si tu veux, c'est typiquement le genre de club qui sont des fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire en termes de recettes.
Ouais, c'est toujours
dit. Ils peuvent aller du pas. Par contre.
Je l'ai toujours dit.
Non, mais si je te parle en tant qu'investisseur, c'est-à-dire argent. Je mets de l'argent et je gagne plus. J'aurais tendance à lui dire, aller dans un club de Ligue 2. Évidemment, faites un bon travail. À partir du moment où tu passes en Ligue 1, à ce moment-là, tu vas avoir du jour au lendemain l'effet inverse de celui que je décris quand tu redescends, c'est-à-dire que tes recettes qui vont monter de 70%.
Ouais, ouais. Par exemple, le Suisse qui a racheté Clermont là,
c'est une bonne idée,
bonne stratégie.
Est-ce qu'il va monter ou pas monter? Mais regarde, enfin,
Clermont, avant qu'il fasse des recettes, ça va être compliqué.
Non, mais c'est pas ça. Il suffit qu'il monte en Ligue 1.
Oui, ah oui, déjà, c'est vrai qu'avec les droits télé.
Il va faire une culbute avec les droits d'Amérique et tout.
C'est terminé.
Ah, mais là, toi, t'es en train de me parler vraiment de
non, mais moi, je parle d'investisseur.
De comment faire d'oseille.
Nous, moi, la question,
c'est la question.
Maintenant, okay, Luc Dayan, c'était quel est le club où j'aurais envie d'aller, c'est à Lens.
La question pour être plus précis, c'est dans quel club tu dis à un investisseur, vas-y, pour, comment dire, aider ce club à grandir encore plus, à lui donner une stature européenne, parce que tu as le potentiel, bassin de population, intérêt autour du club, marque à développer, passer d'un club moitié de tableau de Ligue 1 à durablement en Europe, parce que tout est réuni pour que ce soit le cas. Moi, le seul, je lui dis, ça lui fait plaisir, c'est Strasbourg.
Potentiellement, et effectivement, et en même temps, j'analyse quelle est la concurrence. Et je me dis, en France, j'ai PSG, j'ai Monaco, j'ai Marseille, j'ai Lyon, donc j'ai Lille, j'ai 5.
Donc c'est compliqué d'aller se faire une place en Europe, c'est vrai aussi.
Exactement. Donc bien là, il y a une prise de risque. Par contre, si tu, à un moment donné, pour X raison, ce qui nous est arrivé avec Lille, à un moment donné, on a fait Ligue 2, Ligue 1, on monte en Ligue des Champions. C'est là, avec cet argent, on a construit un centre de formation. Je veux dire, c'est un miracle. Bon, et après tu fais par étape. Moi, je pense qu'une action dans le foot pour un actionnaire, parce qu'on parle d'investisseur, moi je préfère parler d'actionnaire. Ça me paraît beaucoup plus sain, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus en phase avec ce que c'est qu'un club. À ce moment-là, il faut y aller sur une durée assez longue. Si on te laisse travailler, rester là sur une durée longue, tu peux développer et répondre à ce que tout ce qu'on a dans
dans le biotope du football, la durée longue, c'est difficile
à
intégrer.
Ce qui se passe, c'est ce que je décris, c'est que c'est des circuits très courts, les ventes de joueurs, maintenant, il y en a au mercato, c'est tous les 6 mois. Donc, tu as des équipes qui sont plus reconnaissables, ce qu'on appelle des projets de club, c'est pas des projets de club, tu as un management qui est mis sous tension.
Et puis qui valent à la première occasion.
Voilà. Parce que le modèle économique a induit ça. C'est ça que je dis, moi.
Dans quelques instants, on parle des propositions de Luc pour les nouvelles formules. Donc, on va parler de la nouvelle Coupe d'Europe.
Et la nouvelle Coupe d'Europe.
Dans quelques instants, bien sûr, l'after revient. Tout de suite, n'hésitez pas à 32-16 si vous voulez participer au débat. Je sais qu'on reçoit beaucoup d'appels. Alors, il y a plein de monde qui appelle pour son club. Alors, les mecs disent, alors chez moi à Laval, et puis chez moi à Niort, et puis chez moi... on n'aura pas le temps de faire tous les clubs. Hein.
Non, mais il y a une formule qui permet de les réunir tous.
Eh ben, c'est tout de suite dans l'after. On va la décrire.
RMC. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, plus Luc Dayan avec nous ce soir dans l'after. On parle financement des clubs, on parle trading. On va parler surtout maintenant de nouveaux formats. Mais juste avant, il fallait pas lancer nos auditeurs de l'after sur Vaïd.
Ouais, Vaïd.
Parce que du coup, il y a Bruno qui est là et qui veut quand même réagir sur Vaïd. Salut Bruno.
Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme.
Salut.
Et bonsoir Monsieur Dayan.
Bonsoir.
Moi, je voudrais juste savoir, parce qu'il me semble, si je me trompe pas, vous êtes passé un peu à Nantes.
Oui.
À un moment.
Oui, oui.
Et donc, je voudrais savoir, en fait, comme on connaît un peu le caractère trempé et fort de Vaïd Aliyevic, je voudrais savoir si, moi, j'ai lu dans les déclarations d'après-match, notamment de dimanche, il me semble qu'il a dit, dans une des phrases, j'ai lu, il a dit, maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc moi, je l'ai interprété, vous me direz ce que vous en pensez, je l'ai interprété comme peut-être maintenant que j'ai fait un peu mon travail, si...
En gros, j'ai maintenu le club, c'est ça que je veux dire.
Voilà.
Ouais.
Alors Max m'a dit l'inverse, parce qu'il m'a dit, ça veut peut-être plutôt voir dire, maintenant j'ai fait le boulot, donc prolongez-moi. Voilà.
Ah, alors moi j'ai eu, moi je suis Luc Dayan parlant couramment le Vaïd.
Couramment, oui, parce que j'ai été le président qui l'a embauché à Lille en Ligue 2, quoi. Donc il a démarré à ces niveaux-là. Et Vaïd, on s'est frité au bout très très rapidement, parce qu'effectivement c'est sa tactique, c'est-à-dire que quand ça réussit ou quand ça va mal, enfin il est toujours en train de mettre une pression indirecte. Et bon, moi je m'y suis habitué, mais moi je pense que là au contraire, c'est retenez-moi, j'ai sauvé le club. Donnez-moi des moyens. Donnez-moi des moyens.
voilà.
Recruter des joueurs, voilà, c'est un peu ça, Vaïd.
Bon, et on verra si Kita suit, en l'occurrence.
Voilà.
En tout cas, Vaïd a entendu Jérôme Rotten, et du coup, il voulait réagir.
Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi.
Sacré Vaïd. Bon, proposition de Luc, parce que, évidemment, on parle beaucoup dans l'after de ce nouveau format. Possible de Ligue des Champions, voilà. En 2024. Bon, alors aujourd'hui, les ligues sont vent debout contre. Certains clubs se disent ou pour, d'autres contre. Bon, là, c'est voilà, chacun se positionne.
Ceux qui se disent pour sont ceux qui ont pris conscience que pour leur développement, c'était la seule solution.
Et toi, tu as une proposition à faire de format.
Le PSG a dit ouvertement oui. Lyon l'a pas encore dit à 100%, mais on sait qu'Olas est pour à 100%. Et Marseille ne dit pas oui juste parce qu'ils ont peur de pas être dedans.
Voilà.
Mais s'ils étaient plus en forme au niveau sportif, je pense qu'ils diraient, pour notre développement, on n'a pas d'autre moyen que de dire oui.
Alors, c'est parfaitement juste. En réalité, d'abord, c'est prévu pour 2024. Donc, tu vois qu'il y a quand même un grand décalage entre l'effet d'annonce et l'éventuelle réalité. Mmh. Donc, ça veut dire que derrière, il y a des acteurs qui ont préparé ça, des groupes de télévision qui sont... C'est pas la première fois, c'est-à-dire que moi je me souviens quand Canal est rentré dans le PSG, il y a eu une société privée qui avait préparé un schéma qui
court. Oui, un plan était prêt.
Ouais, et puis l'UEFA a réagi et a modifié des formats de compétition, justement, a créé la Ligue des Champions.
En fait, l'UEFA n'a fait que depuis 20
réagir.
Ans, toujours réagir.
Exactement, au groupe privé.
Pour éviter que les clubs se barrent
et là le risque le risque pour l'UEFA.
Et là Seferin il est plutôt dedans maintenant.
Mais
et
pourquoi
l'UEFA est plutôt dedans.
Mais je veux te dire pourquoi.
C'est parce tout qu'ils simple. Acceptent de partager le gâteau.
Non, c'est que la Commission européenne a considéré que maintenant les associations type UEFA, fédération et autres ne sont plus monopolistiques. Ça veut dire que demain tu as un groupe privé qui met l'argent sur la table. Et qui décide d'organiser le championnat en garantissant à tous ces clubs-là les revenus qui leur permettent à eux d'être confort dans leur business model. Par exemple, Marseille perd 70-80 millions dans le modèle actuel, donc c'est beaucoup d'argent pour un actionnaire. Même le Qatar qui effectivement finance indéfiniment, mais quand même. Donc
et qui en a marre de gagner tous les ans sans adversité.
Ça
tue son business.
Et un certain nombre d'experts considèrent que quand tu prends l'Europe, tu vois les bassins de population européens, les grosses villes, les grosses marques, eh ben ça supporte un championnat que les consommateurs. Et ça c'est le grand pari. Hein, c'est le pari sur ce modèle. Les consommateurs vont être contents de voir des Tottenham, Juventus, des.
Mais comment veux-tu que le consommateur soit pas content de ça?
Non, mais la question, c'est est-ce que le supporter de Guingamp va supporter le PSG?
Exactement.
En réalité, non mais je te parle de la, on va, ça va être un peu confus, mais ça, il y a beaucoup de questions derrière ça. Mais
ce qui se passe de Guingamp ou de, je sais pas, moi prenons par exemple Saint-Etienne n'est pas dans le coup, il ne regardera jamais la nouvelle la réforme.
En réalité, ils le savent, ils regardent.
Je crois pas, moi.
Non, mais je te dis, ils le savent. C'est pour ça que c'est une vraie possibilité. C'est pas des choses comme ça. Tiens, on va faire une nouvelle formule de compétition.
Crois, si tu permets une parenthèse là-dessus.
Bien sûr.
Parce que aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, notre génération et notre approche du foot, elle est plus vraiment d'actualité.
Non,
aujourd'hui, quand tu regardes les enquêtes sur, par exemple, tout le monde déteste le PSG. Et moi, ça m'arrive de le dire très souvent. Alors que quand on regarde de plus près, les jeunes, c'est aujourd'hui le club qui est le plus aimé en France.
C'est,
paradoxalement, alors qu'on dirait qu'on penserait
c'est
le nom,
plus,
mais
c'est
les études marketing
on est
le disent.
On est
attends, j'aimerais qu'on en vienne à la proposition de Luc.
Non, mais c'est ça que je te dis. Tu as tout à fait raison. Donc tout ça pour, on va. Enfin, si vous êtes d'accord, on finit sur la Ligue des Champions. Donc c'est pas un truc comme ça. Tiens, c'est parce que derrière il y a une cohérence économique, il y a une cohérence marketing. C'est l'aboutissement d'un modèle qui est effectivement que le football soit dans l'économie du spectacle. Et à ce moment-là, tu as effectivement des groupes de télévision qui savent que ce programme-là va être susceptible d'amener des abonnés, que les gens vont payer jusqu'à un certain prix, qu'à partir de voilà.
Donc le modèle est là, il va fonctionner.
Le modèle est là, on sait qu'il fonctionne. Il fonctionne aux États-Unis sur la NBA. Donc
et
sur
encore la... une fois, Seferin ne s'y oppose pas. C'est important. Je voulais le dire tout à l'heure.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution?
Voilà.
Seferin,
garder... tant qu'à faire, allons-y ensemble. Il y aura à gratter.
Oui, sinon il peut se faire doubler par la droite, quoi, en quelque sorte.
Oui, voilà. ils peuvent se mettre. Tu mets quatre.
Alors, j'en reviens à ta proposition pour sauver malgré tout nos championnats nationaux dans cette configuration.
Voilà. Donc maintenant. Une fois que tu as compris ça, les gens qui sont à l'intérieur du secteur savent que c'est quelque part inéluctable. Ça correspond à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une évolution du
mode consommateur. Du consommation de football, en fait.
Voilà. À partir de là, t'as les clubs qui sont ce qui est pour nous important dans une ville, dans une région, qui craquent. Et moi, je les vois craquer en réalité, parce que ça, si tu veux, je me suis dit, mais finalement, ce que je vois des clubs comme Bastia, Valenciennes, Lens, Nancy, ça craque. Ça craque financièrement. Ça craque parce que les gens vont moins au stade.
Aujourd'hui, les jeunes 15-20 ans, ils supportent le Real, le Barça, Paris, les gros clubs.
Ils y vont pas. Il y a plus d'attachement à ce qu'on appelle le club. C'est-à-dire que, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème profond. Ça veut dire que c'est même un problème de philosophie politique. C'est de se dire, l'Europe, c'est quoi? Et quel est l'impact de l'Europe sur le football de club professionnel? Je parle même pas de ce qui est en dessous. Et donc, question, c'est est-ce qu'il faut pas réorganiser les choses pour que ces clubs justement soient pérennes? Donc comment les protéger contre cette évolution du football? Voilà, donc moi je dis il faut changer les formules de compétition et anticiper et être encore plus pro que ceux qui sont en train d'imaginer.
Donc tu fais quoi avec la Ligue 1?
Moi je dis on prend 48 clubs. Moi j'ai regardé la carte de France. En plus, ça a une réalité parce que depuis que la Ligue a été créée, il y a eu que 77 clubs, donc Fives, Douai, enfin je sais pas quoi, qui ont été.
Ouais, des clubs disparus. Bon.
Donc tu prends 48 clubs et tu les laisses ces 48 clubs. Par contre, tu fais une première phase avec 4 poules de 12 régionales. Tu prends les 4 meilleurs. Ça se termine en décembre. À partir du mois de janvier, tu as donc une Ligue 1 à 16 clubs. Donc les matchs qui ont été joués dans la première phase comptent. Et à la fin de l'année, bah, t'as un premier, deuxième, troisième, quatrième. Tu as deux Ligue 2 qui démarrent avec une qualification pour l'Europe. Et l'année d'après, ça recommence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une collectivité, un investisseur, un manager, il peut prévoir sur la durée ce qu'il peut faire. Et d'abord, et sa franchise, sa présence dans le championnat, parce que
on parle de club,
elle est garantie. Ça veut dire que le risque sportif, d'abord, tu as un deuxième cliqué, t'as un premier cliqué, je monte pas. Et le risque sportif impacte beaucoup moins la pérennité.
Tous les clubs, on va dire, de petites villes, qui sont actuellement nationales,
Rodez,
eux, c'est mort.
Ça monte pas.
C'est mort.
Je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est...
Tout cela, tu les condamnes à vivre dans le monde amateur toute leur vie.
Je dis, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Donc j'ai imaginé, parce que je sais la mentalité. Simplement, on peut penser les choses différemment. Comment ça se passe en vrai? C'est-à-dire que quand t'as une ville comme Niort, Laval, les clubs qui sont autour, les jeunes, ils veulent aller jouer en équipe première à Laval. Ils veulent aller jouer en équipe première à Auxerre. Ça, c'est la réalité. Simplement, les clubs, on les oblige à avoir des centres de formation. Chaque club. Donc, chaque club dans cette région a son centre de formation.
Donc, ils vont capitaliser sur tout l'ensemble, là.
Donc, regarde, la Bastia, par exemple, quand ils ont sauté, il y a un centre de formation, il sert plus à rien. T'as plus le droit de mettre des jeunes et de les former. Il faut attendre que tu reviennes en Ligue 2. On a des règlements. T'as un stade qui a été financé par la collectivité publique qui sert plus à rien. Le Mans a été un exemple comme ça. Il y a beaucoup d'argent public qui est perdu
à
cause de ça.
Il y a de l'argent public
et de l'argent privé aussi. Et de l'argent privé aussi. Des investisseurs qui disent tiens, je vais faire ça, ça marche pas, hop, et ils redescendent. Donc je dis, si on pensait que finalement les clubs sont stables. Et que c'est les joueurs qui, à un moment donné, de par leur qualité, ont la possibilité de jouer ou pas, de par leur qualité, au niveau professionnel.
En fait, ce que tu nous décris, c'est une NBA européenne et une NBA française.
Absolument. Alors, moi, je suis pas sûr que d'être pour la NBA européenne. Alors, contrairement à ça, parce que moi, je pense que c'est pas une bonne solution pour solutionner les problèmes de Marseille, de Lyon, parce que tant que t'as pas de salary cap, tant que tu as pas réglé le problème des transferts, c'est inflationniste. Tu vois bien que maintenant on te dit un transfert, c'est plus de France, c'est 400 millions.
Juste Jérôme et Daniel, sur cette proposition de Luc là, vous adhérez ou ça vous pose un souci éthique ou autre?
Champion pour cette nouvelle formule.
Je résume. Quatre zones géographiques entre en gros août et décembre.
Mais là, on y est.
Et là, hop, c'est... une deuxième phase avec les meilleurs.
Écoute, moi, je vais te répondre très clairement. Je suis déjà nostalgique du football d'avant parce que je pense que ces trucs-là vont arriver. Mais franchement, ouais, moi, le football, c'est pas ces ligues fermées européennes ou françaises. C'est le football, ça représente autre chose. Mais ça, je vois le joueur. Moi, je vois pas le business qu'il y a autour. Je vois pas la difficulté financière des clubs et je comprends.
Mais ce sur quoi faut se pencher, c'est vraiment cette nouvelle formule.
Oui, mais
parce que ça semble inéluctable. Non, mais il faut essayer de comprendre ce que ça peut apporter plutôt que de pleurer en disant
mais
ça va
être
le foot.
C'est
pas que savoir à qui ça apporte.
Le joueur de football, je te dis, le passionné. Le passionné, mais non.
Non, c'est ça.
Mais non, parce que le joueur quand il joue, par exemple, les ligues fermées, là, le joueur.
que tu joues le maintien ou que tu joues la montée ou voilà, tu t'as le stress de des équipes de derrière là qui jouent le maintien, ça fait jamais plaisir, mais t'as le stress, t'es
mais Jérôme, mais ça,
t'as l'adrénaline
des clubs toujours, dans, mais,
ben non, pas là
Jérôme. Quand
pas
l'équipe
là,
descend,
parce que disait...
quand l'équipe Ligue 1, Ligue 2, alors, regarde Lens, c'est un cas d'école. Lens tombe pour un but en 2007. D'accord? Du jour au lendemain, Gervais Martel, président de l'UCPF, faut qu'il trouve 60 millions d'euros. Pas 6 millions, pas 600 000, ouais. 60 millions. Les joueurs, ils ont trouvé des contrats. Ils sont partis, ils sont allés signer ailleurs. Le club de Lens, Gervais a été ruiné, le club de Lens, ils ont vendu tout leur truc, ça a brinque-ballé, ça a détruit tout. Ce que je veux te dire, c'est que le problème des ligues fermées, c'est pas parce que je suis pour les ligues fermées, c'est que je considère que les clubs, c'est la denrée la plus précieuse.
Ah ouais, je comprends.
Et donc, à un moment donné, il faut les protéger contre les dérives de l'économie du spectacle, c'est l'inverse. Aux États-Unis, j'explique ça. États-Unis, il n'y a pas plus libéral, pognon et tout ce que tu veux. Ils ont obligé les ultra-capitalistes au salary cap, aux ligues fermées pour protéger le spectacle sportif.
Exactement, c'est
des,
vrai.
Des dérives. Parce qu'effectivement, quand tu as des milliardaires, regarde ce qui se passe entre les milliardaires qui ont des clubs, ils surenchérissent sur les joueurs.
Ils tapent la bourre sur
le joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les clubs qui sont en dessous, tu as une qualité de joueur qui est incertaine, ou d'équipe, pas de joueur, incertaine, parce qu'ils restent pas à jouer suffisamment longtemps ensemble. C'est quand même un sport co, toi, tu le sais bien, les partenaires avec qui tu vas jouer 3 ans, tu vas jouer les yeux fermés.
Oui, oui.
Luc, merci d'être venu. C'était
plaisir,
passionnant.
C'est pas loin.
On reparle de tout ça. Hein. Une fois que ça se confirme là, tu reviendras nous voir.
Mais je pense qu'il faut anticiper des choses plutôt que les subir. C'est comme l'écologie, c'est un peu pareil.
Bravo Luc.
Pour la réforme de la Ligue des Champions, c'est pour ça que je dis qu'il faut y réfléchir sérieusement et qu'on en reparle sans arrêt pour
passer. Exactement.
Comme ça semble inéluctable, autant essayer de comprendre comment ça va marcher et plutôt que de dire ça va tuer le foot.
Plutôt qu'un truc qui va.
Dans quelques instants, on change complètement de sujet. On va parler de la posture des joueurs. Attention, pourquoi Jérôme Rotten est toujours sur l'arrière? Pourquoi quand il a le ballon, part-il toujours vers l'intérieur? Et pourtant, il a fait toute sa carrière comme ça et ça a marché. Peut-être qu'il aurait fallu défendre différemment sur Jérôme Rotten. Vous saurez tout dans quelques instants dans l'after jusqu'à minuit.
RMC. L'After Foot.